des chambres dans les maisons. Et souvent d'ailleurs les belles maisons. Hein, l'état-major, les états-majors, c'était plutôt des châteaux.
Commandure, c'est...
Oui,
Commandature.
Bunel.
La commandature, c'était là au château. Là.
Château-Madeleine.
Oui, Château-Madeleine.
Oui.
Il y en avait une autre à
Vicorne.
La grande maison qui est dans la rue Carnot.
Rue Carnot. Où étaient les pompiers, juste en face.
La commandature, c'était une administration allemande, militaire allemande, qui était installée dans toutes les villes et qui avait une autorité sur tout un secteur. Les maisons, les écoles, etc. Et les services.
Le 19 juin 1940, lorsqu'ils sont arrivés, les Allemands, il y a un officier allemand, il a choisi une des plus belles villas de Riva, la villa Les Corsaires, parce qu'il passait ses vacances avant la guerre dans cette villa. Témoignage, hein, sûr. Alors, il n'a pas eu de problème à choisir la villa. Hein. La villa Les Corsaires. Et cette villa, ensuite, en 1945-1946, elle a servi pour mettre les prisonniers allemands et mettre des tentes aussi aux alentours qui, eux, ont déminé toute la plage.
Mais c'est sur des exemples comme cela que repose l'information plus ou moins légende de la 5e colonne et des Allemands qui étaient venus, qui connaissaient, etc., qui avaient préparé...
Pour revenir à ce que M. le maire disait pour les écoles, nous, à Wistreham, le 19 décembre 1943, plus de gosses aux écoles primaires, dans les écoles. C'était des villas réquisitionnées. Nous, on était dans la villa Les Marronniers, rue Carnot. Donc, à l'école, soit le matin ou l'après-midi. Alors moi, j'étais du matin, pour un peu que c'était au mois de décembre, janvier, tout ça. Et il faisait froid. Les employés de la ville allumaient le poêle. Le poêle, il fumait plus ou moins. On récitait nos devoirs dans le couloir. Pour un peu qu'il y avait une alerte, les employés de la ville avaient fait une tranchée, un abri. On restait dans l'abri, l'école était finie. Et l'après-midi, ben, on s'en allait glaner à l'herbe au lapin. Ou... Et puis avec les Allemands, chercher du pain. Tout.
Et au Doriforts. Voilà.
Alors, ça, les Doriforts, on peut en parler peut-être maintenant.
Oui,
nous, les enfants des écoles, les Doriforts, à chaque fois j'en parle au mémorial ou autre pour les enfants, les Doriforts, nous étions, nous les enfants des écoles, nous partions avec M. Longuet, notre instituteur. On partait la journée, c'est-à-dire on revenait le midi, mais on partait le matin. Alors c'était des champs bien limités qu'il fallait enlever les doryphores. C'est ces petites bêtes-là, aux ailes jaunes et noires, qui mangeaient la sève de la pomme de terre. Et il fallait faire très attention, parce que comme ils pondaient, il fallait bien enlever aussi la feuille où ils avaient pondu. Alors, on était avec notre petite gamelle en galvanisé, là, notre boîte de conserve. Au bout du rayon, on remettait ça dans une grande bassine, le couvercle par-dessus, parce que ça volait, hein. Je peux vous dire que ça volait bien. Hein. On revenait et on partait. Et quand on rentrait à l'école, il fallait se laver les mains. Et il me semble, ça m'a été confirmé dernièrement, c'était du cristaux de soude. Il fallait bien se laver les mains. On partait et à 14h, on refaisait une autre bordée. On était pédards. Hein.
Et on les brûlait.
Tout le monde rigolait.
Après, ils étaient brûlés.
Tout le monde rigolait.
Nous aussi, nous avons fait la cueillette sur les dunes de l'arbouse.
Des baies.
C'était l'arbouse, c'est le fruit de l'arbousier. Oui. Et les Allemands, comme ils avaient une confiturerie à Colville-sur-Orne, Colville-Montgomery, gérée par Madame Charot. Eh bien, on allait chercher ces petites boules-là sur les dunes jusqu'en 42, parce qu'après il y a eu les
blocos.
Et ces boules-là étaient mises pour la confiterie de Colville, parce que c'était très riche en vitamines. Et dernièrement, je me suis trouvé à Villers-sur-Mer pour parler avec des adultes, et il y a une femme de l'office du tourisme de la Moselle qui me disait, mais exactement, monsieur, parce que ma maman, régulièrement, elle faisait de la confiture, c'est-à-dire elle mettait l'arbouse en complément de ses confitures, parce qu'il y avait un produit très, très riche. Alors, il faut se dire que nous étions, le midi, nourris par les Allemands, par Madame Charot, à la Sablière, rue Victor Hugo. Alors, on était heureux. Alors, il y en a qui disent, on a mangé du singe, on a mangé de la banane séchée. Enfin, voilà. Mais c'était marrant, hein, vraiment.
Mais vous savez, les femmes, à l'époque, les mères de famille, ont fabriqué des tas de choses. Des confitures, c'est encore vrai. Voilà. Mais à l'époque, elles fabriquaient du savon.
Oui.
Et c'était...
Ça sentait pas bon.
Il fallait acheter... Le boucher vendait le suif, c'est-à-dire le gras de bœuf, que l'on coupait en morceaux, en petits morceaux, que l'on mettait à fendre sur le feu. On y rajoutait de la soude caustique. Ça bouillait, ça bouillonnait, ça débordait des fois. C'était très dangereux. Il fallait faire très attention. Et lorsque tout ça avait bien s'était transformé, parce que c'est la saponification, comme on dit en termes techniques, eh bien, c'était refroidi, coupé, versé dans des moules en bois. Et pour faire comme les savons de Marseille, des gros cubes. Mais c'était du savon, et ma foi, mais vous savez, les femmes ont inventé des tas de choses. Il fallait... La confiture, maintenant, c'est un plaisir. Mais à l'époque, c'était une façon de faire des conserves, de garder des choses pour...
Le café, c'était l'orge, hein.
Pour, vous savez, on a parlé tout à l'heure des jardins. Il y avait le travail du jardin, mais après, il fallait récolter, il fallait conserver tout l'hiver. Et les haricots que l'on enfilait, et les pommes de terre que l'on nettoyait.
Hein,
on pendait ça au grenier. Mais par contre, il y a les conséquences. Entre autres, c'est la réduction des ressources de la commune. Pourquoi ? Parce que le casino a été démoli. Donc, il n'y a plus de casino. D'autre part, les touristes ne viennent plus, puisque zone interdite, on ne pouvait pas venir. Et d'autre part, les Allemands, et c'est écrit en toutes lettres, ont détruit 65 belles villas qui ont été rasées pour faire les fortifications des murs du front de mer, et par conséquent, ceux dont la maison avait été détruite ne payaient plus l'impôt foncier. Vous voyez, c'est à travers des informations comme ça, toujours d'ailleurs liées à des problèmes financiers, que l'on apprend des choses sur les conséquences. Ici, entre autres, il y a eu, pour construire ces fortifications, beaucoup de maisons qui ont été détruites. Donc, voyez-vous, moi je me souviens quand j'étais enseignant, les élèves disaient, mais ça voulait dire quoi, l'occupation, etc. C'est difficile à dire, parce que c'est toute une série de choses. Par exemple, se déplacer le soir, on n'avait pas le droit. Il y avait le couvre-feu. Après la tombée de la nuit, ou à la tombée de la nuit, il était interdit de sortir. Et donc, c'était une contrainte très forte. Mais après tout, on n'en mourait pas. Mais je crois que ce qu'il faut bien savoir, c'était surtout cette présence permanente, constante, partout, de l'armée allemande, des Allemands, qui était difficile à supporter. Parce que c'était effectivement l'humiliation. Et puis c'était aussi, bien sûr, les raids aériens. Moi, dans la commune où j'habitais à cette époque, à 40 ans, il n'y avait pas de semaine où les avions anglais ou américains, mais on disait toujours les anglais, car pour nous, il n'y avait que les anglais, hein, les anglais venaient mitrailler, car pour les alliés, la destruction des locomotives, ce n'était pas tant les wagons que les locomotives. Une locomotive, c'est un train en moins. Et donc, ils venaient systématiquement mitrailler les locomotives lorsqu'elles faisaient la manœuvre dans les champs, dans le marais, là, en bordure du marais, à 40 ans. Il y a eu comme ça de très nombreuses locomotives détruites. Et en même temps, bien sûr, nous, à l'école, qui était tout à côté, on plongeait sous les tables, on se cachait, soi-disant. Et puis, bon... mais on a eu ça très souvent. Et puis, il y a eu, bien sûr, il y avait aussi le passage des bombardiers. La nuit, le soir, c'était assez impressionnant, on va dire, parce que, évidemment, d'Angleterre vers quelques points de France, soit au centre ou à l'est ou à l'ouest, eh bien, c'était très souvent au-dessus de la basse Normandie que passaient les raids à minuit ou à 1h du matin. Et ça faisait beaucoup de bruit, ça faisait peur, évidemment, parce qu'on ne savait jamais... où est-ce qu'ils allaient bombarder, et c'était extrêmement souvent.